Le cauchemar de la pensée en boucle. Tu sais, le fameux sentiment d'impuissance face à ce qui se passe dans notre tête, la lourdeur que peut nous apporter les pensées qui n'arrêtent jamais. On a parfois même l'impression qu'on peut même perdre une certaine qualité de vie. Eh bien, aujourd'hui, on vient parler du fameux phénomène de plus en plus fréquent et je te donne des trucs pour y remédier et arriver à reprogrammer ton propre système pour te repositionner sur le siège du conducteur de ta propre vie. Belle âme et bienvenue dans mon podcast Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité, tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans égo et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneur et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Le feeling de la pensée en boucle, une émotion qui peut complètement détruire notre vie ou la rendre magnifique. La pensée en boucle, si elle est bien comprise, peut nous amener à être, à avoir, à faire de notre vie quelque chose de merveilleux. Je vais te donner quelques trucs pour arriver à prendre conscience de ce qui se passe quand on est dans le cauchemar de la pensée en boucle et comment faire les corrections au besoin. Tout d'abord, il faut absolument se défaire de la rigidité dans notre corps. Puis ça, on l'oublie parce que plus on est flexible dans notre corps, on va être flexible dans nos pensées. Quand on a une pensée, on ressent une émotion. Alors, on commence à penser de la même manière que cette émotion. On garde l'émotion dans notre corps avec de l'énergie, une énergie qui s'entrepose là avec l'émotion. En soi, j'ai adoré le yoga parce que ça m'aide à balancer ces fausses énergies-là, mais on peut trouver ça dans n'importe quel sport aussi pour justement débloquer toutes ces énergies qui sont associées à des émotions lourdes, comme on pourrait dire. Plus l'émotion va être forte, plus on va porter attention à ce qui la cause. Et c'est là le problème. Si on n'est pas capable de gérer nos états d'esprit, on donne notre pouvoir à la personne ou au problème en soi. L'énergie s'éloigne de nous. Les émotions sont des mémoires du passé. Elles sont des résidus d'expériences passées. Alors, plus une personne pose son attention sur ses émotions, plus elle pense dans le passé. Si on ne peut pas penser plus grand que ce qu'on ressent en soi, ou que les sentiments, les émotions commencent à être le moyen de penser et qu'on croit que nos pensées ont quelque chose à voir avec notre destin, alors on pense dans le passé et on continue de créer la même vie, encore et encore. Les pensées sont le langage du cerveau. Les émotions sont le langage du corps. Comment on pense et comment on se sent crée l'état d'être. Donc, notre corps est notre propre esprit conscient. Et ce n'est pas la différence entre une expérience de notre vie qui crée une émotion ou une émotion qu'on peut créer seulement avec nos pensées. Donc, quand les gens vivent dans la pensée en boucle ou vivent toujours avec ce que j'appelle le cauchemar de la pensée en boucle parce que c'est en soi quelque chose de négatif, leur corps pense qu'ils sont toujours en train de vivre dans les mêmes expériences du passé. Et le corps devient conditionné au passé. Les gens se réveillent, se connectent à la technologie, on va voir sur les réseaux sociaux. Et après, ils se lèvent et commencent leur comportement routinier. Donc, ils programment leur corps à un futur qui peut facilement se prédire basé sur ce qu'ils ont fait dans le passé. Alors, on peut comme dire qu'ils ont perdu leur liberté à une programmation. Le yoga est parfait comme exercice, d'après moi, mais ça peut être n'importe quel autre sport, je te le répète, pour être présent. Et dans le yoga, on a des asanas ou des postures qu'on appelle. Et ça prend vraiment beaucoup de travail et de courage pour être là, pour être présent dans le moment, pour ressentir, pour aller voir où ça l'étire, où ça fait mal, où ça bloque. Une fois qu'on ressent de l'inconfort, on est capable de changer notre focus de cet inconfort. La plupart des gens se sauvent justement de l'inconfort. Ils ne veulent pas la voir, ils ne veulent pas la sentir, ils ne veulent pas l'expérimenter. Mais un petit truc super important à se rappeler, quand on est assis en présence d'un inconfort, puis qu'on est présent avec ce sentiment, on prend cette émotion qui est emprisonnée ou gardée dans notre corps, puis on la libère en énergie. Quand on change notre respiration, on change nos ondes cérébrales. Quand on change nos ondes cérébrales, on se positionne au-delà de la zone qui sépare l'esprit conscient de l'inconscient. C'est à ce moment-là qu'on entre dans la zone du plaisir que j'appelle, le fameux système opératoire où tous les programmes du subconscient existent, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à reprogrammer le cerveau dans le corps. Puis là, on va pouvoir avoir accès à un nouvel état d'esprit. Mais pour ça, on a absolument besoin de deux choses très importantes. Un, une intention claire, donc une intention positive, avec la clarté, quelque chose de qui nous rend joyeux. Puis, le deuxième, une émotion élevée, puis qui va envahir vraiment tout notre corps. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on atteint ce qu'on appelle la cohérence cœur-cerveau. Puis quand on fait ça correctement, on commence à faire des changements qu'on peut vraiment voir dans notre monde intérieur. Puis ces changements-là commencent à se refléter dans notre monde extérieur. Il va y avoir des synchronicités, des coïncidences, des opportunités vont se présenter. Les effets secondaires de notre changement d'énergie vont ouvrir des millions d'opportunités dans notre vie. Je le dis toujours dans ma communauté fermée sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, je le dis, je le répète parce que c'est tellement vrai. On passe de vivre notre vie dans le connu ou dans la zone de confort où tout est prévisible à vivre dans l'inconnu. Et c'est là que la magie survient. Dans la tradition du yoga, il existe le modèle Kosha qui explique qu'il y a 5 enveloppes de l'être, en fait. Le premier étant Anamaya Kosha, qui est le corps physique en soi. C'est la première couche qui est appelée le corps de la nourriture. La nourriture, c'est Anna, c'est pour ça Anamaya Kosha, qui est composé de matière organique. Il s'appelle comme ça parce qu'en fait, il en est dépendant. La nourriture, comme l'eau et l'oxygène, est la forme la plus pure du prana. La deuxième enveloppe de l'être, c'est le pranamaya kosha, qui est le corps vital. Cette enveloppe-là est faite de l'énergie vitale, le prana, avec laquelle elle nourrit chaque cellule de notre corps physique. En elle, on peut lire la santé du corps physique. Avant d'être physique, les maladies, on le sait déjà, ont leur empreinte énergétique dans le corps. Il y a des fuites d'énergie, il y a des blocages, des dépressions, etc. Cette enveloppe-là est liée au système sanguin et au kapha dosha. La troisième enveloppe, c'est la Manomaya Kosha, qui est le corps mental et sensoriel. Ici, c'est le système des sensations, des émotions, les jugements, les pensées qui sont dans notre mental. Mana, ça veut dire mental en sanskrit. Donc, tous les corps sont intimement liés, on le sait déjà, on se le répète. Et c'est comme ça que les agitations dans le mental, qui est l'enveloppe la plus instable de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la pensée en boucle, c'est un sujet, c'est un thème. Parce que ça, la pensée en boucle vient troubler les koshas inférieurs, puis ça peut bloquer les koshas supérieurs. On se rappelle, quand on est fâché, notre corps physique va rougir, l'énergie tourne à toute vitesse, puis on perd complètement le sens de l'intuition, encore, évidemment, le sens du bonheur, de la joie, du bien-être. C'est pourquoi le yoga, d'après moi, travaille beaucoup avec le mental puis l'apaisement des sens. Cette enveloppe-là, la Manomaya Kosha, est liée au système endocrinien et au Pitta Dosha. La quatrième enveloppe, c'est la Vishnana Maya Kosha. Je trouve ce mot-là vraiment drôle, pardonnez-moi. C'est le corps d'intellect puis l'intuition. C'est à ce moment-là. La notion la plus proche pour expliquer cette enveloppe serait ce que je parle souvent, la voix intérieure, la petite fille à l'intérieur. L'intuition, la connaissance, le guide qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pas d'un mental subjectif, mais c'est vraiment au niveau de l'intuition. Ce que je parle à répétition, l'intuition, le plus important. Parce que la vocation du corps, c'est la prise de décision. Cette enveloppe-là est liée au système nerveux en soi. Puis, la cinquième enveloppe, c'est Anandamaya Kosha. C'est le corps de félicité qu'on appelle. C'est l'enveloppe qui est composée de béatitude, de félicité. Puis, c'est un corps de lumière qui ne peut pas vraiment être bougé. Si on commence à se demander qui est la personne qui observe nos pensées, c'est là qu'on va découvrir qui on est vraiment. 95% de qui on est vraiment se définit souvent avant 35 ans, avec un ensemble de comportements mémorisés, des réactions émotionnelles, des attitudes qui ont été modelées, des perceptions, des croyances qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur subconscient. Et les gens veulent changer ça. On utilise en moyenne, puis on le sait déjà, seulement 5% de notre esprit conscient, mais c'est le corps qui est devenu notre esprit et des énergies emprisonnées dans notre corps. Donc, comment on fait pour faire sortir l'esprit de notre corps? Comment on fait pour commencer à libérer cette énergie-là? Bien, en fait, le moment où on commence à porter attention à comment on pense, le moment où on commence à penser à ce qu'on pense, le moment où on commence à observer comment on se comporte, comment on réagit, comment on parle, le moment où on commence à se rendre compte qu'on s'est senti coupable, etc., etc., le moment où on réalise ceci, on n'est plus le programme. On est la conscience qui est en train d'observer le programme à l'intérieur de nous. On commence à manifester le soi objectif, puis c'est là qu'on va voir qui on est vraiment quand on n'est pas immergé dans ce programme, quand on n'a pas le nez complètement dedans. Quand on arrive à se ressortir en perspective. La première étape pour commencer à gérer notre énergie à nouveau, c'est qu'on doit être capable d'observer nos états d'esprit et nos comportements sans jugement et ou réaction. Quand on est capable de s'asseoir dans la présence de nos états émotionnels sans être distraite, par exemple par des gens, le cellulaire, la télévision, etc., etc., s'asseoir avec nos états d'esprit, puis les transmettre en quelque chose d'autre. Alors là, c'est à ce moment-là que notre personnalité crée notre réalité personnelle. Et notre personnalité est faite à partir de 1. Ce qu'on pense, 2. Comment on se comporte, et 3. Comment on se sent. Alors, la personnalité qu'on a en ce moment même, qui est en train d'écouter ceci, a créé la réalité personnelle présente qui s'appelle la vie. Donc, si on veut créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, on doit commencer à changer notre personnalité. Ce que ça veut dire, en métaphore, c'est qu'on doit allumer une allumette dans une pièce noire, dans notre pièce noire, celle qui représente nos noirceurs. Et juste parce qu'on a une pensée, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai. Alors, ces pensées-là, qui viennent de notre subconscient et qui se passent derrière la scène de la conscience des gens qui disent « je ne peux pas, c'est trop difficile, je ne changerai jamais, je vais commencer demain, ça ne marche pas, etc. » Ces gens-là croient ces fausses croyances. Mais ces fausses croyances-là sont juste des vieux circuits qui ont été emmagasinés dans leur cerveau. Ces gens-là commencent à se voir eux-mêmes à travers les yeux de quelqu'un d'autre, où ils découvrent qu'ils sont tellement heureux d'être malheureux parce que de cette manière-là, j'obtiens l'attention des gens. Il faut faire attention ici. Beaucoup de gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle, mais avec la même personnalité de toujours. Et ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. On doit littéralement devenir quelqu'un d'autre. Alors, dans la méditation, on doit se demander quelles sont les pensées que je veux brûler et laisser aller pour pouvoir mettre mon attention ailleurs. Puis, la méditation n'a pas besoin d'être les yeux fermés pendant 2 heures de temps. Ça peut être une méditation pendant qu'on va marcher, ça peut être pendant qu'on mange, ça peut être pendant qu'on est simplement là, assis dans la voiture, dans le métro. On doit se poser comme question, quel comportement est-ce que je veux démontrer aujourd'hui? L'acte de se pratiquer mentalement ou de fermer les yeux et pratiquer nos actions commence à installer le matériel neurologique dans notre cerveau pour que ça nous fasse croire que l'expérience s'est déjà passée. Après, le cerveau, c'est juste un vieux disque du passé, mais c'est une map aussi pour le futur. Et si on continue de faire ça, le matériel va se transformer en un programme logiciel, puis peut-être qu'on va commencer à agir comme une personne heureuse. Aucune magie ici, là. C'est nous qui avons tout installé dans notre cerveau. La partie la plus difficile, c'est quand on doit se poser la question, est-ce qu'on peut enseigner à notre corps émotionnel ce que le futur va être avant de l'expérimenter? Ça, ça ne veut pas dire qu'on va attendre après notre succès pour se sentir en puissance. On ne va pas attendre pour la guérison, après la guérison, pour sentir de la gratitude. Ça, c'est le vieux modèle de la réalité de la cause et de l'effet. Attendre après quelque chose à l'extérieur de nous pour changer comment on se sent à l'intérieur, ça, c'est la physique de Newton à l'époque. Le moment où on commence à sentir l'abondance, on commence à sentir la richesse. Le moment où on commence à sentir la puissance, on commence à marcher vers notre succès. Le moment où on commence à sentir la gratitude, la guérison commence. Et tout a à voir avec la rééducation. Comprendre un concept puis le dire aux autres pour qu'on puisse l'intégrer encore plus, c'est super bon. Parce que plus on comprend ce qu'on fait et pourquoi on le fait, plus le comment devient facile. On démystifie le processus. On modifie nos comportements pour qu'ils soient alignés avec nos intentions parce qu'on doit les personnaliser chacun. Quand on commence avec cette compréhension, on va avoir des nouvelles expériences, des expériences qui vont enrichir les circuits dans notre cerveau. Le moment où on se sent complète, où on se sent sans limite, où on sent qu'on vaut beaucoup, et on enseigne à notre corps chimiquement comment comprendre ce que notre esprit a compris intellectuellement. Les connaissances sont faites pour l'esprit, puis les expériences sont faites pour le corps. Je répète, les connaissances sont faites pour l'esprit, mais les expériences sont faites pour le corps. Maintenant qu'on a incarné la vérité de cette philosophie, puis qu'on peut le passer, cet enseignement, à nos nouvelles cellules, les nouvelles manières, on change notre destin génétiquement. Les neurones conditionnent chimiquement notre esprit et notre corps à travailler ensemble, unis. Notre travail, c'est de passer de philosophe à commencer à être le maître. À partir de la connaissance, en passant par l'expérience jusqu'à la sagesse. À partir de l'esprit, en passant par le corps jusqu'à l'âme. À partir de la pensée, en pensant par des actes jusqu'à être. Apprendre avec la tête, appliquer avec les mains et savoir avec le cœur. Comment on arrive à ça? Un, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. On doit reprogrammer la manière comment notre cerveau pense. Ça prend un processus, c'est une formule simple. Il faut juste apprendre, il faut juste avoir une certaine discipline avec soi-même. Quand on s'aime assez, ça va être facilement intégrable. Deux, on doit prendre du temps pour soi. Quand on investit en soi, on investit dans son futur. On dénature le programme, les pensées. La méditation veut dire devenir, en fait, le mot méditation veut dire devenir familière avec. Quand on devient familière avec notre ancien nous, ses pensées, ses comportements-là, ses émotions, on ne voudra plus retourner inconsciente comme on l'était avant. Maintenant, on redevient la conductrice de nos pensées parce qu'on le sait qu'elles ne sont pas vraies. Une troisième chose, c'est de se rappeler que les cellules nerveuses qui ne connectent plus ensemble ne s'attirent plus. Donc, ça prend beaucoup de courage, de discipline au début. C'est certain parce qu'on commence à construire le futur, notre futur. On commence à croire plus dans le futur qu'on croit dans le passé. On tombe en amour avec notre futur plus qu'avec notre passé. Quand on se lève avec un nouvel état d'être, quand on médite et on choisit de changer quelque chose et qu'on le sent, qu'on le file vraiment dans le corps, notre travail, c'est de maintenir cet état d'esprit et de corps modifié pendant toute la journée, une journée à la fois. Une journée à la fois, indépendamment de tout ce qui pourrait arriver pendant notre journée. Puis à ce moment-là, les gens, on va voir, commencent à nous sentir différents. Puis se rendre compte parce que notre niveau d'énergie est différent, notre taux vibratoire est différent, notre esprit, notre corps sont différents. Notre cerveau, notre corps sont littéralement dans le futur au lieu d'être dans le présent ou dans le passé. Un quatrième truc, c'est de changer notre respiration pour pouvoir changer les ondes cérébrales. On commence à respirer et sentir son cœur. C'est là où les émotions élevées commencent. On commence à sentir la gratitude, la joie, du bonheur, de l'inspiration, de la créativité. On respire et on sent ces émotions-là. Le cœur commence à battre d'une manière beaucoup plus rythmique, puis produit un champ magnétique. C'est une énergie qui est d'une fréquence et toutes les fréquences transportent des informations. Donc, on commence à élever notre état émotionnel. On change sa physiologie. Finalement, quand on commence à se sentir élevé, cette énergie transporte une pensée. Alors, on doit poser l'intention qu'on souhaite avoir dans nos expériences. Et ça veut dire que quand on combine une intention claire avec une émotion élevée, on change son champ magnétique. Quand il y a un match vibrationnel entre notre énergie, un potentiel dans le futur, alors on n'a pas besoin d'aller nulle part pour obtenir quoi que ce soit. On commence tout simplement à voir tout venir vers soi. J'espère que cette prise de conscience t'aidera à modifier tes pensées en boucle pour pouvoir réellement commencer à vivre la vie de tes rêves, ce voyage terrestre que tu as choisi de venir expérimenter. Belle journée lumineuse à toi, belle âme. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, G-A-I-A, et le groupe Facebook fermé Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.